Accompagner les aidants peut être lourd à la fois physiquement et psychologiquement. Et on le dit souvent, là, la maladie d'Alzheimer, c'est effectivement la maladie du patient, mais aussi la maladie de la famille, puisque les proches vont devoir s'organiser, se restructurer par rapport donc au patient qui est atteint d'Alzheimer et qui va devenir de plus en plus dépendant. Le rôle des aidants est crucial pour les patients, mais n'est pas sans risque, puisque les aider et les soutenir 24 heures sur 24 peut parfois aboutir au burn-out. Alors, comment éviter ce burn-out? Quels sont les signes aussi du burn-out? C'est l'objet de la conférence d'Alexandra Didry. Merci de l'inviter et de me rejoindre sur scène. Bonjour Alexandra, vous êtes psychologue, docteur en psychologie au Centre de mémoire du CHU de Nantes. Bonne conférence.
Alors, merci pour cette proposition de beau sujet qui va se passer en deux temps. Donc, je vais prendre une première partie et ma collègue de la Maison des aidants, psychologue Solène Evra, interviendra ensuite. Alors, ce qu'on va voir dans un premier temps, ce sont les caractéristiques du burn-out. Je vais commencer par ce que n'est pas le burn-out. Ça n'est pas une maladie psychiatrique, au sens, ça n'est pas une maladie dite qui figure dans un manuel psychiatrique comme le DSM, par exemple. Ce serait plutôt un ensemble de signes, un syndrome, qui regroupe un ensemble de signes, excusez-moi, je vois pas ce que je dis, voilà, et de symptômes qui apparaissent progressivement chez la personne. Alors le burn-out, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais il y a à peu près 50 ans, il a été identifié pour décrire, comme vous le savez, l'épuisement au travail des professionnels de santé et de soins. Voici une définition, il y en a d'autres, mais qui paraissait regrouper quand même pas mal d'aspects. Il s'agit donc d'un épuisement total, vous le voyez, on a plusieurs termes, émotionnel, physique, mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc il s'agit en général d'une forme de rupture, d'un déséquilibre entre les ressources, les exigences, des demandes et les ressources personnelles pour faire face. Et ce qui peut entraîner un vécu de rupture. Alors, j'ai mis cette image parce qu'elle me semblait quand même bien représenter par métaphore ce qu'est le burn-out, et puis la traduction tout simplement de ce terme qu'on peut traduire par se consumer, se cramer, se carboniser. On va parler maintenant des différentes dimensions du burn-out qu'on peut retrouver dans les échelles de mesure. Alors, vous avez la première qui est évidente, puisqu'elle fait partie de la définition, c'est l'épuisement, comme on a parlé, un épuisement qui est total, qui est complet, qui est ressenti de manière très intense par la personne, une forme de vide, de fait d'être vidé de ses ressources, et même les temps de repos ne suffisent plus à soulager cette fatigue qui s'installe et qui devient chronique. Vous avez une deuxième dimension qui est très intéressante, qu'on constate, qu'on entend nous dans les consultations aussi, c'est une forme de dépersonnalisation ou de perte d'empathie, où vous pouvez avoir plusieurs formes qui peuvent aller de l'indifférence face à des situations fortes sur le plan émotionnel au cynisme. Alors le cynisme, juste une parenthèse, c'est pas de l'humour comme on peut l'entendre. L'humour, vous savez, fait lien social. C'est quelque chose qui permet d'aller vers l'autre. Le cynisme isole. Et d'ailleurs, c'est une dimension importante puisqu'elle opérationnalise cette forme de barrière avec les autres qui s'installe et qui mène à l'isolement et une forme d'érosion des sentiments. Et enfin, une troisième dimension qui a été identifiée, c'est une forme de perte d'accomplissement ou de sens, une non-réalisation de soi avec ce qu'on entend. Alors des fois, on l'entend pas, c'est vécu, mais c'est pas verbalisé, mais une autodépréciation, une baisse de l'estime de soi, le sentiment douloureux d'être dans une impasse, tout simplement, et de ne pas être à la hauteur. Ce sont des dimensions qu'on peut retrouver dans différentes échelles de mesure, il en existe plusieurs, celle-ci est assez connue, elle a été traduite également en français. Alors au bout d'un certain temps, lorsque la situation est extrême, la personne peut se retrouver dans un état physique, psychique, tel qu'elle est dans l'incapacité de continuer son activité, que ce soit professionnelle ou là, concernant les aidants, dans l'incapacité de poursuivre sa tâche auprès de son proche aidé. Ça a été un peu vite, mais On se posait la question aussi de savoir en quoi et pourquoi les aidants sont-ils susceptibles, peut-être plus que d'autres personnes, de développer un syndrome de burn-out. Dit autrement, est-ce que la situation d'aidant est un facteur de risque, on va dire situationnel, sachant qu'il y a quand même des facteurs de risque personnels, peut-être Solène, tu en parleras mieux que moi. Donc, pour apporter un éclairage à cette question, on a mené là, dans le service au CM2R une étude cet été. On a réussi à avoir 42 aidants, d'ailleurs, qui ont donné de leur temps, et vraiment, on les remercie, pour répondre à des questions sur leur vécu. Il s'agit effectivement de personnes de moins de 65 ans, plutôt des hommes. Donc, comme vous le voyez sur le graphique, on a en majorité des conjoints, voilà, de personnes souffrant d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée, mais aussi des enfants, quelques frères et sœurs, par exemple. Et le diagnostic a été établi en moyenne 2 ans et demi, avant de répondre à ces questions. Alors, qu'est-ce qui caractérise justement la situation d'un aidant, d'une personne souffrant d'une maladie neurodégénérative ? Eh bien, c'est c'est pas simplement justement l'annonce diagnostique. Il y a une annonce qui est prononcée, Laura nous en a parlé tout à l'heure, et c'est un événement en général. Cette annonce, elle peut être consécutive d'un temps d'errance diagnostique ou de grands questionnements. Oui, je vois quelques acquiescements dans la salle et c'est vraiment un moment particulier. On a demandé aux aidants de nous décrire avec leurs mots ce qu'ils avaient ressenti le jour de l'annonce, leurs émotions. Voilà. Et on ne va pas tous les lire, mais vous voyez bien toute cette myriade d'affects très forts allant du choc, de la sidération, à l'anéantissement, en passant par des émotions un petit peu plus complexes comme la tristesse, la solitude. On a aussi la colère qui ressort beaucoup. Donc ce sont des affects qui sont forts, qui ne sont pas figés. Évidemment, ça évolue. Comment ça évolue ? En tout cas, c'est une donnée qui est importante par rapport au sujet du burn-out. Ensuite, on a posé des questions un peu plus pragmatiques. Évidemment, là, je ne vous apprends rien du tout. On a demandé de quels sont les actes que vous remplissez vous-même pour votre proche aidé. Et vous voyez bien... j'ai réussi. Et donc, vous voyez bien... Je ne vous apprends rien, mais la charge énorme, concrète, opérationnelle, dont on peut imaginer les répercussions au niveau mental, de l'aide, on voit bien l'aide administrative et à gestion, c'est vrai que c'est plus fortement cité là, dans cette étude, on le retrouve souvent dans d'autres études, mais vous voyez aussi des items intéressants comme la surveillance, c'est quand même assez intéressant, et puis des actes qui s'apparentent plus à l'aide médicale ou à l'hygiène. Excusez-moi. Ensuite, on a demandé par ordre d'intensité d'essayer de classer ce qui posait le plus de difficultés dans l'accompagnement des proches aidés. Et là, ce qu'on remarque, vous voyez les trois premiers, ce qui apparaît. Ah, on m'entend pas. Pas de micro. Faut pas que je me tourne. Hein. Je me tourne pas. Je fais à l'aveugle. Moi, je vais bien parce que je vois rien. C'est gentil. Merci. Là, vous m'entendez. C'est bien. Alors, ce qu'on remarque, ce qui apparaît comme grande difficulté, c'est le manque de temps pour soi. Le troisième, à 50%, la difficulté à prendre soin de ma santé. On peut imaginer que l'un peut aller éventuellement avec l'autre. Et puis, vous voyez aussi, 62% dans cette étude évoquent des difficultés d'ordre psychologique. Alors, évidemment, il y a d'autres choses qui sont liées aussi à l'âge des aidants qui sont pour la moitié qui étaient en situation professionnelle. Alors... pour essayer de qualifier un peu qu'est-ce que sont ces difficultés psychologiques, et évidemment chaque vécu est singulier, puis en tant que psychologue c'est difficile de généraliser, mais quand même il me semblait intéressant de laisser parler les aidants. J'ai une toute petite séquence clinique, on a essayé d'extraire quelques ressentis, donc je vais vous demander si vous voulez bien d'écouter simplement trois vécus qui illustrent, me semble-t-il, le burn-out.
Le plus compliqué, c'est cette surveillance de tous les instants. Je ne peux pas la laisser seule. C'est une surveillance continuelle. De toutes les façons, elle ne supporte pas de ne pas me voir. Elle me cherche partout. Et si elle ne me voit pas, c'est comme un enfant, avec en plus l'oubli. Je dois tout contrôler. Si elle se lave, ses vêtements, comment elle s'habille, comment elle se couche. Toutes ces choses qui paraissent normales. Je ne peux pas tout vous énumérer, la liste serait trop longue.
Donc là, il s'agissait d'un témoignage de Paul, un aidant de 73 ans vivant à la campagne et dont l'épouse a été diagnostiquée d'une dégénérescence frontotemporale il y a 4 ans. Deuxième petite séquence.
L'accompagnement grignote du temps de manière sournoise et nous sommes rapidement pris dans le fer. Il faut à chaque fois prendre le temps de s'arrêter et penser à soi. Mais même cet arrêt nous demande de l'énergie. Alors je sais qui va m'apporter l'énergie. Il demande une adaptation permanente, d'autant plus que j'ai moi-même une maladie chronique. Cette adaptation est macrophage, une énergie énorme. Toute mon énergie et mes pensées sont H24 consacrées à l'accompagnement.
Vous avez entendu, c'est difficile d'ajouter des choses, c'est assez fort. On avait la surveillance de tous les instants, là c'est une adaptation permanente. C'est une femme de 53 ans qui s'occupe, déjà qui a un enfant à domicile et qui s'occupe de son conjoint qui souffre d'une maladie d'Alzheimer. Et le diagnostic a été établi il y a 7 ans. Enfin, une dernière petite vignette. Cette fois, il s'agit d'un enfant de 35 ans. Enfin, l'enfant d'une patiente, le garçon a 35 ans. Et il parle de sa maman qui a une maladie d'Alzheimer.
Tout le problème est de lier l'activité professionnelle avec les différents rendez-vous, les différentes décisions que j'ai à prendre du fait de l'habilitation familiale. Il faut gérer les différentes problématiques par thème, psychologique, psychiatrique, neurologique, financier, social. Néanmoins, nous avons la chance de compter sur des auxiliaires de vie. Mais le problème étant de nouer une relation de confiance, sans quoi ma mère refuse de nouveaux accompagnants.
Vous voyez, là, il s'agit encore d'un autre sujet qui est aussi très important. C'est le fait de tout gérer et puis comment faire quand son proche refuse des accompagnants. Peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard. Nous avons prélevé aussi quelques verbatims qui semblaient assez forts et qui semblent symptomatiques aussi parfois du syndrome du burn-out. Une dame qui nous dit j'ai tendance à plus boire, à plus manger. On a aussi ce qu'on entend énormément dans les consultations, c'est ce sentiment d'isolement. Je me sens isolée, je suis obligée de tout faire tout seul. La solitude est accrue. C'est quelque chose qui est très fort et qui ressort assez souvent. J'ai trouvé aussi assez touchant ces deux petits témoignages d'une femme qui nous dit « J'ai deux personnes à la maison, l'être aimé, qui est aussi la personne malade que j'accompagne. Cette dernière prend toute la place, tout est fait pour elle et selon elle. » Et puis, enfin, puisqu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes, il a fallu choisir. Il nous semble que ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la difficulté à vivre le relationnel au sein du couple, qui se modifie avec la maladie, qui parfois se détériore. Et c'est aussi un vécu de souffrance qu'on entend beaucoup dans les consultations. Alors je terminerai ma présentation par des éléments autour de l'importance évidemment de la prévention du burn-out de l'aidant qui apparaît comme un enjeu de santé publique. Un petit état de l'art, une revue de littérature pardon, fait état de répercussions concrètes sur le plan physique, sur le plan mental du burn-out de l'aidant. Vous allez trouver plusieurs, alors j'ai sélectionné, il y en a beaucoup, hein, plusieurs recherches récentes même qui nous montrent que des répercussions sur le plan, comme vous voyez, de la santé physique avec un risque de un risque cardiovasculaire. Et je voulais dire que tout à l'heure, Claire a parlé des facteurs de risque. Hein. Souvenez-vous que le risque cardiovasculaire était un des éléments tout à fait importants à prendre en considération. Vous avez aussi d'autres répercussions comme les maladies chroniques, des symptômes somatiques et puis sur le plan plus mental, on rencontre souvent un lien avec le vécu de burn-out et la dépression, en tout cas des symptômes dépressifs, un impact négatif sur la qualité de vie et puis ce qu'on voit burden, c'est le fardeau. Fardeau, ça ressort beaucoup, il y a beaucoup d'études sur le fardeau de l'aidant. C'est très intéressant comme littérature. Alors, pourquoi la prévention est un élément crucial, c'est que je vous ai représenté, voilà, sur ce petit schéma. Alors, je n'ai pas mis d'indication de temps, parce que ça dépend de chacun, mais vous voyez de façon assez comme ça, linéaire sur ce schéma, mais les différents stades qui peuvent aller d'une fatigue, comme on a parlé, presque, en tout cas, irrécupérable sur le plan du vécu, hein, irrécupérable, mais en tout cas, un ressenti d'une fatigue irrécupérable, avec différents symptômes qui peuvent apparaître, des douleurs, des symptômes physiques, troubles de l'humeur. Vous avez également ce dont nous avons parlé, vous vous souvenez, dans les dimensions, une attitude qui devient cynique, pessimiste, une forme de détachement des situations, ou au contraire, beaucoup trop de sensibilité par rapport à l'état, entre guillemets, normal de la personne. Et puis, ce qu'on voit souvent, c'est des formes un peu complexes d'émotions, comme la culpabilité, là, qui ressort quand même beaucoup et qui est difficile à vivre, évidemment. Avant d'arriver à cet état là, de rupture qui correspond à cette petite image, qui est finalement un état d'effondrement, d'implosion, le corps dit stop. Il y a un désengagement qui peut être total dans l'activité, c'est-à-dire que la personne ne peut plus concrètement, parfois même, se lever. C'est important quand même de noter que le risque suicidaire à ce moment-là est évidemment accru. Il y a un mécanisme qui a été repéré, il y en a d'autres, un mécanisme de défense qui a été repéré, il s'appelle l'accélération, c'est que la personne peut ne pas se rendre compte qu'elle est justement dans une zone d'épuisement, vous voyez, ouais, j'ai été un peu vite, là, je voulais dire, elle peut ne pas se rendre compte qu'elle s'épuise, elle va lutter avant d'arriver à cet état de rupture ici. Et donc, dans ce moment-là, on se dit, le corps dit stop, mais qui l'entend? Puisqu'en général, dans le burn-out dit professionnel, ce sont l'entourage, le conjoint, la conjointe qui remarquent quand même des petits signaux. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand quand le conjoint est lui-même malade? C'est quand même une vraie question. Qui l'entend? D'où l'intérêt, je terminerai sur les enjeux évidemment du repérage des signes du burn-out. Je vous rappelle tout à l'heure le petit graphique lié à notre étude. Presque 80% déclarent manquer de temps pour eux, ne prennent pas soin de leur santé, en tout cas n'ont pas le temps de prendre soin de leur santé. Et on a vu à travers ces petites vignettes cliniques les difficultés, les souffrances psychologiques, sachant que ce sont des résultats qu'on va retrouver dans d'autres études, surtout le manque de temps pour soi. Alors trois messages, hein. Solène fera peut-être... elle ira plus dans le détail, ça paraît vraiment évident, je suis presque gênée de le dire, mais en fait c'est tout à fait important, et vous voyez ce petit iceberg, on peut imaginer que le burn-out, la rupture se trouve tout en haut, et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, j'ai pas le temps pour moi, donc c'est de prendre le temps pour soi, de faire un arrêt avant d'arriver à la rupture. Évidemment, si on le peut, c'est de s'orienter vers son médecin généraliste, qui est quand même un acteur en première ligne pour repérer, détecter, et puis coordonner un parcours de soins. Pourquoi pas vous orienter vers un psychiatre si besoin est. Ne pas hésiter à parler de son vécu, parce qu'il y a la maladie, mais il y a aussi notre histoire personnelle, l'histoire avec notre proche, qu'est-ce que la maladie vient changer, tout ce vécu qui est quand même assez, parfois en tout cas, difficile et lourd, à un psychologue ou une psychologue, et puis s'orienter vers des structures de répit pour les aidants. Alors je terminerai simplement, rapidement... ce qui ressort de l'étude qu'on a menée sur les bénéfices des consultations de psychologie, de soutien psychologique ou d'annonce. Donc c'est vrai que c'est un temps qui est particulier. Et vous voyez que le fait de parler de son vécu, de ses angoisses, de mettre des mots, d'être pris en compte, est quelque chose quand même qui ressort beaucoup, même si au préalable, les aidants ne voient pas trop ce qu'un psychologue parfois pourrait apporter. Le message, effectivement, que même si le vécu, la maladie isole, hein, c'est un fait, c'est un ressenti, ben, vous n'êtes pas seul. Et puis, je laisserai la parole à Solène. Là, dans cette étude qu'on a menée, on a demandé si les aidants s'orientaient, vous voyez, vers des structures de répit ou des associations d'aidants aidants. Et je vais un peu vite, voilà. Et si leurs proches allaient à un accueil de jour, donc ce n'est pas la même chose, hein, mais en tout cas, il n'y a que 20% dans notre étude, hein, qui font appel à ces moments de répit, et ils en tirent un grand bénéfice, je n'ai pas mis les verbatims, mais c'est vrai qu'il y a 80%, on est assez étonnés qui n'y vont pas, alors que quand on pose la question de finalement qu'est-ce qui vous, dans quelle mesure ces éléments vous aideraient, eh bien on voit que le fait de participer à des ateliers, de rencontrer d'autres aidants, de sortir de l'isolement, ben c'est quelque chose qui apparaît comme des perspectives intéressantes. Donc je soulève la question, finalement, quels sont les freins, et il peut y avoir beaucoup de freins psychologiques, structurels, matériels même, à l'orientation vers les structures de répit. Peut-être si vous avez des idées, je serais ravie de les entendre tout à l'heure. Et puis, quelles sont les ressources à disposition?
Merci beaucoup, Alex.